Dutrisac. Un animateur pas comme les autres. Cube Radio.
On revient sur cette pétition, dans le fond, là, cette lettre de, au dernier décompte, 1377 personnes influentes du monde de l'intelligence artificielle qui demandent une pause de 6 mois dans les laboratoires. Avec nous, Eve Gaumont, qui est chercheuse en droit au Centre de recherche en droit public de l'Université de Montréal. Madame Gaumont, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, là, cette demande? Puis j'ai vu que c'était Yoshua Bengio qui est le premier signataire de cette lettre-là, plutôt. Qu'est-ce que ça évoque pour vous?
C'est certain. Bon, la lettre fait l'objet de beaucoup de débats quant à son contenu, quant à ses auteurs. Certaines des critiques sont légitimes, mais je pense que ce qui est important de se rappeler, c'est que le point principal de cette lettre-là, qui est le moratoire, c'est une excellente idée.
Parce que?
C'est pourquoi est-ce que c'est une excellente idée? Parce que les choses vont tellement vite en ce moment que c'est difficile pour nous, les chercheurs en sciences humaines, en droit, de bien prendre le temps d'identifier les enjeux et de trouver les bonnes solutions pour y répondre. La recherche en intelligence artificielle, ça fonctionne souvent dans une logique d'essai-erreur. Donc, peu importe que notre idée fonctionne ou pas, on progresse. En droit, on n'a pas le loisir de se tromper. Et donc, un moratoire de 6 mois, ça serait une véritable bouffée d'air frais pour vraiment prendre le temps de bien réfléchir aux enjeux et comment les adresser.
OK. Concrètement, Mme Gaumont, là, de quoi parlez-vous? Avez-vous un exemple pour qu'on puisse comprendre ce que ça implique?
Qu'est-ce que ça implique? Bon, les systèmes d'intelligence artificielle ont des impacts importants en matière de vie privée, en matière de désinformation, en matière de discrimination. Mais dans la lettre, un des éléments qu'on mentionne de manière importante, c'est les enjeux en termes de désinformation. Et ça, il y a des solutions qui existent et ça, il faudrait prendre le temps d'amender les lois canadiennes pour y répondre. Par exemple, il existe déjà des dispositions législatives qui interdisent de imiter un politicien, un représentant d'Élections Canada à des fins autres que la satire. Mais c'est pas clair si la disposition s'applique à un système d'intelligence artificielle, à ChatGPT, qui imiterait, par exemple, Justin Trudeau, qui parlerait de la même manière que Justin Trudeau. Et donc, il faudrait travailler à changer la loi électorale du Canada, à modifier la loi électorale du Canada pour qu'elle s'applique.
OK. Là, vous faites référence, finalement, à l'hypertrucage, le deepfake, ce qu'on a vu avec le pape ou Donald Trump, ou même, je pense, avec Justin Trudeau, selon Joe Rogan, qui avait fabriqué une entrevue. Est-ce qu'on parle là de propagande, de désinformation, de mensonge?
On parle de distorsion de la réalité, de distorsion de la vérité. Et oui, et il y a aussi des dispositions qu'on pourrait amender pour interdire certaines formes de mensonges. Au Canada, on encadre de manière stricte la liberté d'expression. Donc, on veut préserver un espace de liberté d'expression. Mais lorsque certains types de mensonges, des mensonges qui sont faciles à connaître la vérité ou non, et qui n'ont aucune valeur sociale pour la société, ces mensonges-là, on peut les encadrer. Jusqu'à 2021, on avait une disposition qui interdisait, par exemple, à un candidat de mentir sur son passé à titre de vendeur d'assurance, par exemple, ou sur le lieu d'un certificat de naissance, le lieu de naissance d'un politicien. Ouais. La disposition a été déclarée inconstitutionnelle, mais on pourrait la réadopter dans le contexte de l'intelligence artificielle de manière très ciblée pour policer ça.
À quel point ça a accéléré? Parce que j'avais reçu Yoshua Bengio à deux reprises, je pense en 2018 et en 2020, et il me disait, arrêtez de capoter avec l'intelligence artificielle. C'est des scénarios de films de science-fiction. Ça a l'intelligence à peu près d'une grenouille. En 2023, est-ce qu'on peut encore dire ça?
Je pense qu'il y a quand même quelque chose de vrai là-dedans. Il faut, malgré que c'est très impressionnant, et malgré que les technologies sont beaucoup plus avancées qu'il l'était en 2018 et en 2020, c'est encore simplement procédé statistique qui procède par imitation. Donc, on est encore dans des scénarios catastrophistes lorsqu'on parle du remplacement de l'être humain par la machine. Mais à la vitesse à laquelle ça va, c'est difficile de savoir où on sera rendu dans 2 ans. Donc, c'est pour ça que c'est important de prendre un moment pour réfléchir, bien anticiper les impacts et les planifier. Puis d'ailleurs, le Canada, en ce moment, est en train de discuter d'un projet de loi à Ottawa, d'analyser un projet de loi, le projet de loi C-27.
Ouais.
C'est important, vraiment, qu'on y pense sérieusement.
Est-ce que c'est une demande réaliste de demander aux laboratoires, aux chercheurs à travers le monde de faire une pause de 6 mois alors que la compétition est immense?
C'est très certainement ambitieux comme projet. Cela dit, les acteurs de l'intelligence artificielle ont probablement aussi des intérêts à faire preuve de plus de prudence. Il y a un risque réputationnel et la course au progrès dans laquelle ils se sont lancés en ce moment fait en sorte qu'à un moment ou un autre, il y a quelqu'un qui va trébucher. Je pense que donc, pour eux-mêmes, pour les grandes entreprises qui développent ces modèles-là, il y aurait un avantage à prendre un moment pour bien réfléchir et éviter des dérapages qui pourraient nuire à leur réputation.
Trébucher, Mme Gaumont, dans quel sens?
Bien, par exemple, Microsoft avec Bing, son agent conversationnel qui devenait agressif et un peu... c'est un exemple de trébuchement. On peut aussi penser en Belgique, il y a quelqu'un qui est décédé des suites de conversations. Et là, c'est multifactoriel, mais ouais. Certains journaux allèguent que c'est du fait de sa conversation avec un agent conversationnel qui l'aurait incité au suicide. C'est certain que c'est pas quelque chose qui est souhaitable pour la réputation d'une compagnie de savoir que son agent conversationnel incite quelqu'un à se donner la mort.
Pas très bon, hein, pour les services à clientèle, ça c'est clair. Mais quand on parle d'intelligence artificielle, hein, Gaumont, là, les gens peut-être se disent, ça me touche pas, c'est loin de nous, mais ça inclut, par exemple, les algorithmes qui ont vraiment capturé l'esprit de nos enfants, comme TikTok, comme Netflix, ça fait partie de l'intelligence artificielle, ça?
Oui, bon, l'intelligence artificielle est très présente dans nos vies. Lorsque vous dites capturer l'attention de nos jeunes, il faut faire attention. Bon, c'est pas nouveau, hein, que les enfants sont influencé par avant, ce fut des magazines, ça aurait été la télévision. Maintenant, c'est les réseaux sociaux. Faut quand même prendre une posture déflationniste et pas trop m'emmener là.
Non, je suis pas d'accord, là, Mme Gaumont. Un magazine, là, il y avait un rédacteur en chef, il y avait une vérification des faits. Aujourd'hui, ils sont sur leur écran puis ils scrollent sans arrêt, pendant des heures et des heures. À un moment donné, le magazine, tu passais à travers, tu le fermais, tu passais à autre chose.
Oui, là-dessus, on est bien d'accord. Mon point était simplement de dire, en fait, mon point était plutôt sur les enjeux d'apparence physique et mon point était surtout sur le fait que parfois on accuse les réseaux sociaux comme Instagram d'avoir créé du mal-être et de la dépression au point de vue de l'image, mais ouais. C'était des enjeux qu'on connaissait à l'époque. Mais oui, c'est certain qu'il y a de nouvelles questions qui viennent avec les algorithmes d'intelligence artificielle et les réseaux sociaux. Mais il faut juste prendre une posture modérée.
Là, on parle beaucoup de chat GPT-4. Je pense que c'est ce qui motive aussi cette lettre-là. Êtes-vous d'accord avec ces inquiétudes?
Oui, je suis d'accord. Moi, vous m'auriez demandé il y a un an de cela si ce serait possible d'avoir des conversations aussi impressionnantes avec un système d'intelligence artificielle. Et puis j'ai travaillé sur ces types de logiciels-là et j'aurais dit non, on est à des années-lumière d'avoir des conversations aussi convaincantes.
Ah oui.
Donc c'est ça la grande crainte. C'est la vitesse à laquelle on progresse, puis le fait que c'est difficile de prévoir qu'est-ce qui se passera dans un an ou dans deux ans. Et c'est pour ça que c'est important de se doter de lois. Et c'est ça les projets de loi. Ce qu'ils font en ce moment, c'est qu'ils mettent des mécanismes pour mitiger les risques avant qu'on mette les produits sur le marché. C'est pour ça qu'ils sont intéressants. C'est parce qu'ils permettent un peu, mais ces projets de loi ne sont pas encore adoptés. Et c'est pour ça qu'on doit se donner du temps pour les adopter, pour avoir un encadrement qui fait en sorte que on connaît les risques et on peut appréhender les risques avant de sortir un logiciel sur le marché.
Okay. J'ai une question niaiseuse, là. Faites-vous-en pas, là. Mais est-ce que les lois vont avoir un effet sur l'intelligence artificielle? Si chat GPT-4 peut produire le code d'un virus informatique, est-ce que c'est une loi qui va l'empêcher de faire?
On sait que pour l'instant, ce sont encore des gens qui sont derrière, bon, d'abord qui font la commande à chat GPT. D'une part, donc ouais. On pourrait agir sur ces personnes-là. Et d'une deuxième part, il y a certainement quelqu'un qui développe le logiciel, qui a développé l'infrastructure. Et on pourrait aussi retenir la responsabilité d'OpenAI, de Facebook, pour les produits qu'ils développent, s'ils ne sont pas suffisamment sécuritaires.
OK. Avant qu'on se quitte, Mme Gaumont, selon vous, là, ce qui vous a impressionné en termes d'intelligence artificielle au cours des derniers mois, même, je parle même pas des dernières années, là, qu'est-ce qui vous a impressionné en termes d'évolution de l'intelligence artificielle?
Pendant très longtemps, les systèmes d'intelligence artificielle de ce genre-là, du genre de chat GPT, étaient excessivement racistes et crachaient du contenu vitriolique en quantité industrielle et on a réussi à mitiger ce problème-là. Et maintenant, il faut vraiment faire preuve de beaucoup de créativité pour arriver à leur faire dire des choses aussi horribles qu'ils le faisaient par le passé et continuer de le faire, mais c'est beaucoup plus difficile. Et moi, ça, c'est quelque chose qui m'a impressionné, la capacité des grandes compagnies à avoir été capable de régler ce problème-là aussi rapidement.
Parce que ça fait preuve de jugement, de discernement?
Non. Non, parce qu'on a mis en place des balises et des lignes claires qu'ils ne devaient pas dépasser.
Okay.
On s'est assuré qu'on ne s'approche, que ChatGPT va rester aussi loin que possible de toutes les questions relatives aux nazis, à l'Holocauste, parce qu'on sait que c'est un terrain glissant.
Très bien. Eve Gaumont, un gros merci pour cette conversation. On va voir où ça nous mène. Hein?
Merci à vous.
Merci.
Au revoir.